Évidemment, avec Olivier Beauregard, on parle de Super Bowl aujourd'hui parce que c'est en fin de semaine que ça se passe. Olivier, bonjour!
Salut!
Alors, quels sont, est-ce que tu veux y aller d'une prédiction tout de suite? Tu veux nous parler des deux équipes? Dans quelle direction tu veux aller par rapport au Super Bowl?
Ben écoute, si je te parle de prédiction, les gens ont qu'à prédire le contraire de moi, puis ils risquent de gagner leur pari parce que je n'ai pas une bonne moyenne au bâton dans les dernières années à
c'est
CGA,
vrai, c'est
à
vrai.
Chaque fois que je prédis un Super Bowl. Mais je pense que ça va être intéressant. Tu sais, d'un côté, tu as les Pats de la Nouvelle-Angleterre qui sont de retour au Super Bowl après quelques années d'absence. Tu as les Seahawks de Seattle également qui ont une saison de 16 victoires, 3 défaites, une bonne défensive, une équipe un peu plus mature que les Patriots qui, eux, comptent une saison de 17 victoires, 3 défaites. Donc, c'est deux équipes qui étaient au sommet de leur art toute la saison. Qui s'affrontent. Les Pats, ce qui est intéressant, c'est que c'est un corps arrière recru là, qui se retrouve dans cette position-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à New England, un corps arrière. Depuis, dans le fond, le départ de Tom Brady, on n'a pas vu un corps arrière qui était capable de gérer aussi bien le ballon. Puis je pense que lui, tout au long de la saison, du côté des Pats, on a trouvé enfin notre homme. Ça va être tout un match de football parce que je m'attends à deux équipes qui veulent absolument couronner leur saison de la plus belle façon possible sans voulant dire de remporter le Super Bowl, mais ça reste que c'est deux équipes qui ont tout approuvé parce que les Seahawks de Seattle, c'est une équipe qui s'est cherchée au courant des dernières années, connaissait des bons et des moins bons moments. Mais c'est une équipe qui n'était pas capable de cisser une place en séries éliminatoires ou du moins de la solidifier. Donc, je pense que du côté des Seahawks, c'est comme si c'était une chance de rédemption. T'as Darnold qui est corps arrière de cette équipe-là. Darnold qui a roulé sa bosse dans la NFL dans les dernières années, qui a eu une belle saison avec les Vikings du Minnesota. Et là, on lui accorde un contrat et il a prouvé qu'on a bien fait de lui faire confiance avec les Seahawks qui amène son équipe au Super Bowl. Et d'un autre côté, ben t'as une jeune équipe en les Pats qui ont passé par une reconstruction après le départ de Tom Brady qui s'est mal produite, si tu veux, parce que, écoute, ces départs-là de Brady, de Rob Gronkowski, quand ils ont quitté pour Tampa Bay, ça a vraiment changé le visage des Patriots. On a eu l'impression que pendant des années, ils se sont cherchés une nouvelle identité, mais là, on semble l'avoir trouvé. On semble avoir espoir en notre équipe. Alors, ça va être vraiment très intéressant. Je n'irai pas de prédiction, mais je peux te dire que si j'avais un petit 2 à mettre, je pense que le match va jouer beaucoup du côté de la défensive et je pense que les Seahawks sont mieux outillés pour remporter ce match-là. Reste que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, cette année, à chaque fois où on a cru qu'ils étaient morts ou c'était terminé, ils ont été capables de nous impressionner. Donc, je vois pas comment ce match-là sera pas un match serré. Je vois pas comment ce match-là sera pas chaudement disputé. Je m'attends vraiment à un match qui va jouer jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, Sam Darnold, là, c'est toute une histoire, le corps arrière des Seahawks. Lui, là, il a pas connu que des bons moments dans la NFL à un certain moment. Il était relégué comme deuxième, troisième corps arrière. Et là, aujourd'hui, il se retrouve comme corps arrière partant au Super Bowl. C'est une très, très belle histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il veut prouver. Et je pense que ça va le motiver à justement concrétiser ce qu'il va être capable de faire lors de ce match ultime-là. Et du côté des Pats, même chose. C'est une équipe qui est en pleine croissance. J'ai comme l'impression que c'est la première participation au Super Bowl pour peut-être quelques années parce qu'on risque de les revoir dans le portrait. Ils sont jeunes, ils sont travaillants et c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup de talent. Donc, très intéressant. Je pense que ça va être un très, très bon match de football.
On surveille ça dimanche soir, bien sûr. Maintenant, tu voulais nous parler du dossier Gavin McKenna. Ben, c'est pas un dossier sportif, mais ça concerne un sportif. C'est un peu ça, là.
Ouais, exact. Écoute, Gavin McKenna, qui est pressenti comme potentiellement le premier choix au total du prochain encamp de la Ligue nationale de hockey, il y a une bombe qui est tombée dans le monde du sport hier avec le dossier McKenna. C'est cette fameuse arrestation où Gavin McKenna a été pris dans un bar du côté des États-Unis parce qu'on, je vous le rappelle, il joue au collège à Penn State dans la NCAA. Et Gavin McKenna fait face à des accusations, des chefs d'accusation de voies de fait graves sur une personne. On parle d'une bagarre là, qui a éclaté dans un bar. Et Gavin McKenna fait face à des charges. Sauf qu'en étant aux États-Unis, McKenna fait face à des charges tellement sévères que ça peut aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Et ça, là, c'est très, très gros. Écoute, on n'a pas les détails de cette bagarre-là. Il y a tellement de rumeurs qui courent présentement. On dit que non seulement dans cette bagarre-là, il y aurait eu acharnement de la part de McKenna, que l'autre personne là, qui est impliquée dans cette situation-là n'aurait pas voulu se défendre et McKenna lui aurait fracturé la mâchoire à 3 places. Écoute, c'est un dossier qui est vraiment, vraiment scandaleux. J'ai hâte de voir ce que Penn State va faire. Est-ce qu'on va décider de suspendre McKenna jusqu'à la fin de cette enquête-là? Est-ce qu'on va le garder dans le giron de l'équipe? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais chose certaine, lui, là, il vient de perdre des plumes en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale. Je ne vous dis pas qu'il ne sera pas repêché. Par contre, j'ai comme l'impression qu'il y a des équipes qui vont peut-être être un peu plus timides à le repêcher. Mm-hmm. Donc, un gars qui aurait été pressenti comme le premier au total pourrait glisser là quand même de façon considérable en première ronde. Ça me rappelle un peu des dossiers qu'on a vécu. Tu sais, le dossier de Logan Mayo avec le Canadien de Montréal, ça avait fait énormément jaser. Le Canadien avait pris un risque sur lui, mais il avait glissé là en fin de première ronde, alors que du côté de Gavin McKenna, on dit que c'est un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais c'est quand même tout un dossier. C'est une épine dans le pied de la Ligue nationale de hockey parce que, rendu là, Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères ce dossier-là? Est-ce que tu fais comme si ben, la loi fera sa loi puis nous, on continue à faire du hockey ou tu essaies de lancer un message en disant il y a des situations où il y a des comportements qui sont inacceptables qui vont entraîner des représailles? Et j'ai hâte de voir ce que la Ligue nationale va faire, qu'est-ce qu'on va faire dans ce dossier-là. Mais honnêtement, à quelques mois du repêchage de la Ligue nationale, c'est une des plus grosses situations jamais vécues dans l'histoire de la Ligue nationale. Et soyez certains d'une chose, là, au mois de juin, quand les équipes vont se présenter pour le repêchage, là, le dossier de Gavin McKenna ne sera pas encore réglé en cours. Là. Ça, c'est sûr et certain. Alors, j'ai hâte de voir quelle position les équipes vont prendre à ce niveau-là. Mais évidemment, Sébastien, là, on va en parler tout au long de l'hiver, on va en parler tout au long du printemps de ce qui va arriver avec Gavin McKenna et le repêchage de la Ligue nationale. Mais quand ça a tombé hier, c'est un coup de massue sur la Ligue nationale de hockey, ça c'est sûr et certain.
La Ligue nationale qui là est en pause olympique, les Jeux commencent demain, et le Canadien qui a bien fini ça là, avant d'arriver à cette pause olympique-là.
Ben oui, terminé ça à Winnipeg hier avec une victoire de 5-1, Sam Montembeault devant le filet. Tout va bien, Madame la Marquise. Ça a été vraiment là, impressionnant comment le Canadien a géré son calendrier surchargé jusqu'à la pause olympique. Écoute, c'est un dossier de 4 victoires et 1 défaite en temps supplémentaire dans les 5 derniers matchs. Le Canadien a connu vraiment un calendrier difficile. Écoute, les Sabres de Buffalo à 2 reprises qui fracassent tout sur leur passage dans la Ligue nationale. Les Golden Knights de Las Vegas, le Wild du Minnesota. Écoute, cette équipe-là a réussi à se solidifier une place en séries éliminatoires. Vous en parlez en début d'année, on voulait faire ça du côté du Canadien, être en série. C'est une chose de le dire, mais là, je pense que le Canadien, on peut le dire au moment où on se parle, seront de la danse du printemps. Et c'est impressionnant à quelle vitesse cette équipe-là est en train de prendre du galon. Moi, j'ai comme l'impression que le Canadien va devenir une équipe très compétitive. C'est de terminer de la bonne façon, c'est de terminer sur les chapeaux de roue. Et rappelle-toi, lors de la pause des 4 nations l'an dernier, c'était tout le contraire. Le Canadien venait de perdre, je pense, 8 ou 9 de leurs 10 derniers matchs. Ça n'allait pas du tout. La pause des 4 nations est arrivée et le changement de garde s'est fait par la suite. On a vraiment réussi à renverser la vapeur. Cette année, là, pas compliqué. Prends tes journées de congé, puis quand tu reviens à l'entraînement, l'objectif, c'est de continuer sur le même chemin. Alors, le Canadien est en très, très bonne posture au moment où on se parle, puis je pense qu'on pourrait avoir un printemps pas mal intéressant au Québec avec la participation du Canadien en série. Je te dis pas, Sébastien, qu'ils vont remporter la Coupe Stanley, là, je vais me garder une certaine gêne, mais je te dis une chose. La prestation de Jacob Debèche depuis le début de l'année, qui, oui, est pas parfait, mais qui réussit à remporter des matchs. Sam Montembeault qui a joué un match A+, là, hier à Winnipeg. Moi, je pense que le Canadien est en selle pour connaître une belle fin de saison. Et ça va être aussi intéressant de voir ce que Kent Hughes et Jeff Gordon vont vouloir faire pour la période de transaction. Est-ce qu'on va tenter de solidifier notre équipe pour faire un bon bout de chemin en séries éliminatoires? Bref, quand ton équipe te parle, généralement, c'est là que les directeurs généraux vont répondre. Et sachant que l'équipe est prête à performer, que l'équipe a prouvé à l'organisation qu'on est sérieux, qu'on veut être compétitif, ben peut-être que là, Kent Hughes et Jeff Gorton vont passer du temps plutôt sur le téléphone que devant leur téléviseur pendant la pause olympique pour préparer la période de transaction qui arrivera très rapidement à la fin du mois.
Et ça brasse chez les Oilers.
Oui, écoutez, je ne sais pas si vous avez vu ça hier, une défaite contre les Flames de Calgary chez les Oilers d'Edmonton hier qui a vraiment mal passé. Tellement mal passé que lorsqu'il y a eu un entretien avec Leon Draisaitl dans le vestiaire après le match, on voyait qu'il n'avait pas digéré cette défaite-là. Trois défaites consécutives pour les Oilers d'Edmonton. Je vous rappelle que c'est l'équipe qui est allée à deux finales de la Coupe Stanley dans les deux dernières saisons, qui s'est inclinée et qui veut absolument remporter le fameux trophée. Et là, on a l'impression que c'est une descente aux enfers qui continue. Écoute, Leon Draisaitl en point de presse hier, c'est ça qui a retenu l'attention de tout le monde. Il n'a pas hésité à pointer du doigt tout le monde au sein de l'organisation, en passant par les entraîneurs, en passant par le gardien de but, en passant par tous les membres de son équipe. Écoute, c'est la pause olympique, ça va laisser le temps à tout le monde de respirer un petit peu puis de digérer ça, mais j'ai comme l'impression que c'est un message qui a été lancé à tout le monde, puis un message, je sais pas comment ça va être reçu, Sébastien, je sais pas si dans le vestiaire, ça va le diviser ou plutôt ça va le solidifier, mais chose certaine, quand un de tes leaders, un gars de concession, comme on dit, décide de lancer des flèches à tout le monde, un moment donné, il va se passer quelque chose parce que ça peut pas se passer comme ça. Tu sais, je vous donne quelques phrases qu'il a dites hier. Il a dit, on sait pas défendre, notre jeu en infériorité numérique n'est pas bon. À un certain moment, faut que nos gardiens fassent des arrêts. Faut que tout le monde en donne plus et ça commence par les entraîneurs. Écoute, toutes ces phrases-là, là, ça a l'air de peut-être rien, là, mais c'est énorme parce que là, tu as un joueur de concession qui remet en question toute la structure organisationnelle de l'équipe et ça, c'est pas bon à l'aube d'une fin de saison. C'est pas bon pour une participation aux séries éliminatoires et c'est pas bon quand tu essaies de garder tes super vedettes dans ton marché. Rappelez-vous, Connor McDavid, c'est un gars qui a décidé de rester cette année, mais j'ai hâte de voir, lui, au niveau de son dossier de prolongation de contrat, qu'est-ce qu'on va faire. Et Leon Draisaitl, peut-être, va vouloir être tenté de tester le marché un jour pour se dire, ben écoutez, c'est pas une minute que je vais remporter la Coupe cette année. Quand tu as deux joyaux comme ça, qui commencent à en avoir plein leur bottine, ben c'est jamais bon signe. Et hier, je pense que Leon Draisaitl a lancé un message clair en disant, là, ça marche plus. Puis moi, ce que je me pose comme question, Sébastien, en tant que spectateur, là, c'est comment ça se fait qu'un joueur se permet de dire qu'on ne sait pas défendre au match 42 de la saison régulière. Si tu ne sais pas défendre, rendu au mois de février, il y a un méchant problème. Ça veut dire que le problème, il est souvent en arrière du banc. En tout cas, j'ai l'impression que ça m'a donné hier les propos de Leon Draisaitl. Alors, ce sera très intéressant après la pause olympique, voir où les Oilers vont reprendre un peu le flambeau puis voir qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire parce que présentement, là, tu pars en pause puis je pense que ça a brassé pas mal de choses. Il y en a qui vont partir en vacances avec peut-être la tête moins tranquille que d'autres, ça c'est sûr et certain.
Et on se parlera la semaine prochaine justement de ces Jeux olympiques probablement. Jeudi prochain, c'est le premier match du Canada en ronde préliminaire. Puis ben les femmes, eux, qui débutent déjà là, un peu plus tôt leur épreuve olympique, là, ça commence dans les prochains jours. On aura l'occasion de s'en jaser. Olivier Beauregard, un grand merci!
Merci Sébastien, puis oui, on va s'en reparler des Jeux olympiques, dossier complet la semaine prochaine. Juste vous dire également que du côté du championnat, du tournoi chez les femmes, là, du tournoi de hockey, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup plus que juste une médaille olympique. On parle surtout d'un marché européen qu'on tente d'attirer du côté de la LPHF. Bref, je vous en reparle la semaine prochaine parce que je pense que là-dedans, il y a beaucoup plus que juste un tournoi olympique. On est en train d'essayer d'exploiter un marché du côté de la LPHF. Ça va être intéressant, ça.
À la semaine prochaine, Olivier.
Merci, bye-bye.